Eh bien, bien le bonjour aujourd'hui, mardi 1er mars 2011. Vous êtes bien au Café des Sports sur Principe Actif. Allez, chers auditeurs, chères auditrices, rassurez-vous, vos oreilles seront aujourd'hui ménagées. Bernardo n'est pas là. En revanche, bonjour Gonzalo.
Ça va.
Bonjour Raoul.
Enchanté.
Raoul qui revient d'une cure de Viandox à Duveldorf, on le rappelle. Bonjour Damienski.
Présent, bonjour.
Et Gonzalo, je te laisse présenter le dernier invité.
Bah, c'est Ryan O'Driscoll qui nous accompagnera pendant 7h30, ça ?
Voilà.
Bonjour à tous.
Et bah voilà, on va retrouver un peu les rubriques habituelles. On reviendra évidemment très largement sur le crunch. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sport local ? Et puis la NBA, puis un billet d'humeur peut-être, si l'imagination vient. On l'a fait travailler hier, ça, l'imagination. Et puis voilà, le tout orchestré de main de maître par Gonzalo. Allez, c'est parti, musique. Eh ben, c'était quoi, Gonzalo ?
Arlan Thibodeau, These Days.
Eh ben, je sais pas, est-ce que vous avez été voir du sport, monsieur Raoul, cette semaine, ce week-end ?
J'ai vu du sport, mais pas dans la région.
Dans la boîte ? Ah non, à Duveldorf, toujours.
Toujours.
Voilà. O'Driscoll ?
Moi, c'était plutôt week-end canapé devant les matchs de rugby destination.
Ah. Bon, on y reviendra tout à l'heure.
T'es même pas allé au près.
Et vous, Damienski ?
Eh bien écoutez, j'étais devant au stade Roger Rochard devant le FC 27 qui recevait Bastia.
C'est plutôt derrière le qualificatif en ce qui les concerne, non ?
Oui, Bastia était derrière. Il reste derrière.
Attention, ça commence fort.
Et puis ben, on va savoir tout de suite ce qu'il en est de l'ami Gonzalo.
On n'est pas bien ? Si. Paisible. À la fraîche. This is bad country. Décontracté du gland.
L'homme sage est celui qui connaît ses limites exactes.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà qui dit en tout cas. Bon, écoutez-moi ça pour commencer. C'est l'équipe qui fait les joueurs et pas l'inverse. Hein ? Elle est pas belle celle-là ? Je répète le message à caractère informatif de Rémi Vallin, repéré vendredi dernier dans le coin-coin local. C'est l'équipe qui fait les joueurs et pas l'inverse. Mais on y reviendra un peu plus tard. Pour moi, ce type de formulation philosophique est du niveau de « on n'est pas là pour être ici », l'une des spéciales de Brandon. Mais laissez-moi vous livrer une dernière fulgurance verbale. C'est de mieux en mieux et chaque semaine, c'est pire. Un de nos collègues sportifs et borussiens. Ah voilà, on commence à lancer les avions dans le studio. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu ? Oui, ce mardi, dans le coin-coin régional, Rémi le Malin enfonce le clou. Il faut maintenant qu'on ait envie de remettre les efforts au niveau du collectif pour retrouver de la sérénité. Il n'y a plus que ça pour sauver la saison. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi un tel cri du cœur ? Donc la LM Basket reste sur une série calamiteuse. 2 victoires, 7 défaites lors des 9 dernières journées. D'un autre côté, pour Nanterre, c'est pas mieux. 3 victoires, 5 défaites lors des 8 dernières journées. Le sport, le nouveau sport, le sport de Noël, il caracole en tête du championnat. Alors pourquoi un tel effondrement ? et Borussia. J'avance trois hypothèses. Numéro 1. Effectivement, le collectif s'est dissous par un accroissement de l'individualisme. On mouille un peu moins le maillot, on tire un peu plus la couverture à soi, et l'horlogerie collective s'est déréglée. Et tant que ça gagne, bon bah, on disait trop rien sur les problèmes d'humeur, etc. On laissait de côté les fâcheries. Mais dès que ça perd, on les exprime. Exemple, Monsieur Davis. Hypothèse numéro 2. Sambou Traoré était un pigiste de luxe. Il apportait des solutions intérieures et extérieures. Il était dur au mal en défense. Il pesait sa douzaine de points par match et sa demi-douzaine de rebonds par match également. Il fixait l'attention des défenses adverses et il galopait. Pourquoi passer ? Parce que maintenant, il le fait toujours. Hein. Mais pour le sport, qui est premier ? C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Hypothèse numéro 3.
Petit A, grand B.
Arrive la saison des négociations de contrat. Les agents appellent, les dirigeants discutent et les joueurs ne sont plus à 100% dans leur basket. Il faut penser à l'avenir. Et l'avenir serait sans doute meilleur avec un ou deux paniers à 3 points supplémentaires. Et peut-être avec un petit peu moins d'intensité défensive parce que ça, de toute façon, ça n'apparaît pas dans les stats. Donc autant se concentrer sur l'attaque. Mais vous le savez, moi, j'y connais pas grand-chose en sport et encore moins en basket. Et de toute façon, comme dirait l'autre, c'est l'équipe qui fait les joueurs et pas l'inverse. Basket !
Hypothèse numéro 4.
Ah, je te la laisse.
Hypothèse numéro 4, c'est la version soft. De toute façon, on revient à notre place, on a un petit budget, donc quelque part, ça devait nous rattraper. Avant, on surjouait, maintenant, voilà.
On sous-joue ?
Non, non, on est juste à notre place.
D'accord.
Parce que c'est la période des renégociations, mais pas que pour les joueurs.
Ah.
Il y a aussi les subventions, les partenaires privés et tout ça, donc faut pas leur vendre quelque chose de mauvais, de malsain. On va leur dire que, tout simplement, on a besoin d'une puissance financière supérieure pour pouvoir briller. Et que là, on est juste avec le 12e budget, je crois. On est juste 5e. C'est
non,
très
non,
bien.
Non. On va y revenir sur le classement. Donc, basket, on l'a dit. Chalon, 85. Évreux, 69. Alors, tout d'abord, M. Davis était en civil. Et comme l'affirmait la communication du club, il s'agit d'un problème employeur-employé, rien à déclarer. Un peu comme le basket hébreuxien, d'ailleurs. Commentaire d'après défaite de Rémi Valin. On aurait dû mener à la pause, mais nous n'avons pas été bons en défense. Ensuite, les gars se sont battus, mais chacun dans son coin. Clairement, la LM ne pétille plus. Je crois que tu avais une stat que tu voulais évoquer.
Ah oui, c'est vrai que Ludovic Schell, 1m75 ou 80, 7 rebonds, co-meilleur rebondeur de la rencontre. Bon, effectivement, il a beaucoup joué, lui qui est normalement habitué au rôle de 6e homme, mais 7 rebonds pour ce joueur qui est plutôt quand même un ailier. Meneur, voire shooter, enfin bref, c'est quand même étonnant qu'il soit co-meilleur bondeur de cette rencontre.
Classement, alors il y a deux versions. La version optimiste, Évreux est troisième, avec Le Portel, Dijon, Chalon, Reims et Fos-sur-Mer. Version pessimiste, Évreux est huitième. Volé, repos pour les pros. Et à peu près la même chose d'ailleurs pour la N3, battue par Anière, 3-7 à 1. Football, National, Passy.
Allez Damien, monte au créneau là.
Passy, 0. Orléans, 0. Alors je cite le coin-coin local, la série de 2 nuls dont l'encourageant résultat contre Orléans confirme le renouveau passé. Hein. Seulement, les équipes de bas de tableau ne cessant de s'imposer, le PVEF se retrouve désormais à 5 longueurs du premier non relégable. Passy, 17e. CFA 2. Évreux, 1. Bastia, 0. Commentaire du dev, toujours dans le coin-coin local. Les joueurs d'Eric Fouda ont réussi à se défaire dans le temps additionnel d'une réserve bastiaise invaincue depuis 7 rencontres. Cette victoire autorise les Hébroïciens à se retrouver au milieu de classement. Mais la zone rouge reste à 5 longueurs. Évreux, 7e.
Il parle comme ça, dev.
Je sais pas, je m'en souviens plus, moi.
Non, mais pardon, c'est autre chose.
And. SMV 27, Sainte 22. Belle dynamique pour les joueurs des bords de Seine. Longtemps contrarié par la défense de Sainte, le SMV a fait le break dans les 5 dernières minutes avec 5 buts d'écart. Cette 9e victoire assure presque le maintien. Bah, c'est idéal pour un accident. SMV 6e. Rugby. Évreux 38, Chartres 22. 9 essais sur le prêt, dont 6 pour le AC. On serait cru dans un match du Super 15 et non du Top 14. Et en plus, c'est le deuxième bonus offensif
consécutivement
obtenu à la maison. Et alors, toi qui étais un peu sur le prêt, Brandon, t'en as pensé quoi?
Non, non, compliqué.
Il préfère les matchs à l'ancienne, mais le 6-0.
Non, le score reflète bien la deuxième mi-temps, mais pas la première. On a été plus qu'accrochés par des Chartrains joueurs, truqueurs, agressifs dans le bon sens du terme.
C'est toujours les autres qui truquent. Ils sont pas beaux, toujours. Ils sont méchants, les autres. Hein.
Non, mais ils ont joué avec leurs armes et une grosse
pression. Et les arbitres qui font preuve de mansuétude.
Avec une grosse pression dans les rocs, dans les zones de combat au sol, et qui retardait bien
les sorties de balles.
Les sorties de balles, et voilà, on a essayé de jouer avec des passes, pour beaucoup plus de passes que d'habitude, et c'était bien, mais il y a eu beaucoup de déchets dans un premier temps, et on a su se recentrer sur un jeu un peu moins ambitieux en deuxième mi-temps.
Moi j'ai noté que c'était un EAC à réaction et un EAC qui n'arrive pas complètement à prendre le jeu à son compte sur 80 minutes.
Bah, on le fait rarement. Tu peux pas passer d'une équipe qui était très bonne en défense et bonne uniquement sur des ballons portés à une équipe qui va envoyer du jeu et qui va être sûre de ses qualités de jeu. C'est aussi le propre dans le sport. C'est facile de se mettre au niveau d'une bonne équipe, notamment en défense, sur l'agressivité, sur des choses simples. Après, imposer un jeu, imposer son projet de jeu, c'est toujours plus compliqué, et d'être sûr de ses forces, mais c'est dans tous les sports, et je pense que Raoul
c'est l'avis de M. Odriscoll qui m'intéresse.
Ouais, il n'a pas vu le match.
Ouais, depuis son canapé, il a peut-être des commentaires à faire, je sais pas.
Mais c'est clair qu'au rugby, c'est facile des fois de sortir des gros matchs contre des grosses équipes. Mais des fois, il y a les matchs pièges contre Chartres, par exemple, et ils ont réussi à s'en sortir, donc c'est une bonne chose déjà.
Ben voilà qui est dit pour le sport hébreuicien local.
Et ben, je crois qu'on va clore cette page, et puis on va se retrouver.
Je vois que le chat s'affole. Hein.
Après, ouais, ça arrête pas là.
T'as tes lunettes?
Ouais, mais il a plus de voix.
Bon, après, ça va faire
des minutes. Voilà.
Après,
il y a un groupe féministe qui envahit le chat, en fait, je crois. Allez, c'est quoi le prochain morceau?
Le sex appeal du patron.
Spectrals, Peppermint. Yeah.
d'après vous, quelles vont être les consignes pour la seconde période, puisque vous êtes réduit quand même à 14 depuis le début du match?
Ouais, mais là, les consignes, ça va être simple. Il va falloir rentrer avec des tripes énormes. On va préparer les technico-tactiques, les tactiques, on va les struncher, puis voilà. Il y a des matchs où c'est... on est 14, ils sont 15, on va y aller avec, avec une grosse paire, quand même.
Une grosse paire.
Et bien voilà, c'est un peu le résumé du match Angleterre-France de ce week-end.
Les Anglais en avaient une plus grosse paire.
Non, je pense qu'on a pu y aller quasiment qu'avec notre grosse paire.
Qu'avec ça, oui.
Et on a pu rivaliser 40 minutes durant sur de l'agressivité. On a fait jouer les Anglais en reculant et ils ont plutôt déjoué sur cette première mi-temps. Ils se sont alimentés sur nos erreurs et notamment nos hors-jeux, à savoir un hors-jeu de Josion.
T'es pas content que ce soit revenu celui-là?
Oh non, c'est juste je refais un hors-jeu de Chabal. Par contre, lui, je suis vraiment pas content qu'il revienne parce que je vois pas ce qu'il a apporté pendant les 60 minutes où il a été là. On me dit que c'est un impact player, il a pas avancé une fois au contact. Derrière sa mêlée, il trie les ballons comme un mini poussin. Voilà, il y a des joueurs comme ça qui ont pas été au niveau, et notamment Chabal pour
d'ailleurs,
moi.
D'ailleurs, il est à la porte, il vous
rentre Sébastien.
À noter qu'il a quand même fait 3 plaquages, c'est énorme pour la troisième ligne.
Ah, toi aussi, t'as fait tes stats devant ta télé.
Et par contre, votre beau-frère, il était pas mal, non?
Ouais, voilà, par contre,
Imanol.
Ouais, Harry Nordoki, gros match avec du sautoir, les deux, ils ont été tout simplement énormes. La première pénalité française vient suite à sur le coup de renvoi. Les Anglais la jouent à la française.
Mais oui, ils ont fait ça tout le match. Bah, et nous, on a joué à l'anglaise.
Ça fait depuis le début du tournoi qu'ils font ça. Ah,
sauf que là, voilà, avec une défense qui plaque, ils ont pris un tampon, ils gardent le ballon au sol, 3 points. C'est la même action que Huguet avait entamée aussi avec
l'aide précieuse de Poitrenaud.
De Poitrenaud qui nous en a fait encore une magnifique à la 30e.
Une croisée, pas croisée?
Une poitrenade.
Non, une poitrenade. Coup de pied, j'arrive tout seul face au ballon avec pas d'adversaire à 15-20 mètres à la ronde. Hop, je me tourne pas en pleine course.
Olé.
Ballon simple. Hop, et ben non, ballon perdu, mêlé. Sur un bon ballon qui était un bon ballon de relance dans leur 40 mètres.
Question. Hormis marqué sur les fautes des Anglais, nous on n'a pas marqué sur des séquences fortes, non?
Alors, voilà. Parce que
la dernière fois, je me rappelle, tu avais noté de réels progrès dans les lancements de jeu, mais notamment autour des phases statiques.
Et ben j'ai retrouvé des progrès. Sur les premiers temps de jeu, le problème c'est qu'après...
C'est lui qui dicte les commentaires de Livremont après les matchs.
Mais non.
Mais si, la méthode Coué. C'est lui.
Mais non, mais c'est un fédéraste.
Mais non.
Il défend la clique.
Il a un par-dessus.
Laissez-moi finir et me justifier. On a vu des 8-9-15, petit côté notamment où on a gagné 35 mètres. On a vu des touches volées en troisième sauteur, ce qu'on n'avait jamais vu depuis le début de la saison. Où on a envoyé du jeu et on a plus ou moins franchi. Le problème, c'est que après un blocage, on est incapable de remettre de la vitesse et de rejouer vite. Ce qui me gêne, c'est ça, c'est cette incapacité à recréer des choses dans le mouvement. Alors, général.
La dernière fois, tu parlais à la fois des contests des Irlandais, mais aussi de la lenteur de Parra.
Ouais.
Qui a joué à la mêlée?
Là, j'ai trouvé qu'il y avait cependant du mieux par rapport à l'Irlande, par rapport à ces zones-là, où ça a quand même davantage joué que le premier.
Julie était meilleur que Parra. Ouais.
Moi, j'ai trouvé meilleur. Ça me fait chier de le dire, mais...
Deux fois.
Deux fois. Et toi, O'Driscoll, qu'est-ce que t'as pensé du jeu offensif français?
La même chose, bien sur les lancements de jeu, mais après, c'était lent et ils sont retombés dans les travers du jeu à une passe. Souvent, ça manquait de soutien. Ou alors, des fois, il y avait des petits en avant. Il y a eu une masse d'en avant sur la première mi-temps. C'était assez impressionnant.
On a une meilleure défense puisqu'on prend que 3 essais.
Ouais, par contre là la défense...
Que 3, c'est pas la moyenne depuis le début?
Non, on en prend...
Si, 3.
Bah 3, mais l'arbitre 3 à chaque 2, match.
Il est où? Après, on en a parlé vite fait en antenne, mais si on va sur ce débat-là qu'il y a peut-être pas en avant, la pénalité que Wilkinson passe, il n'a pas à la tenter. C'est une pénalité, on ne peut pas faire un changement sur une pénalité.
Toujours le ballon qui n'a pas été talonné.
Non, c'est là ça. C'est encore pire que ça. C'est sur une pénalité, tu n'as pas le droit de faire un changement
talonné,
de joueur.
C'est contre Chartres, le ballon pas talonné.
Non.
Ah pardon.
Mais voilà.
Mais l'essai de Tindall, il est valable. O'Driscoll, qu'est-ce que t'en penses toi?
Il n'est pas tenu au sol, c'est pas un plaquage. Donc,
il est valable.
Ah mais il va au sol sans être plaqué, t'as pas le droit dans la règle. Si on applique la règle.
Mais non, mais il va au sol parce qu'on bouscule, on le fait très passer.
Tu veux dire une charge à l'épaule? Pas interdit?
Non, il n'y a pas de charge à l'épaule. Après, je suis plus ou moins d'accord qu'on évite la correctionnelle, mais d'un autre côté, il y a un truc qui me choque, c'est quand même que les Anglais qui ont été bousculés en mêlée plus qu'il ne faut, avec Sheridan qui sort au bout de 20 minutes, finissent avec des mêlées simulées et que c'est la mêlée française qui se soit fait pénaliser le plus. Il va falloir que les arbitres regardent et apprennent.
Des mêlées, il y en a une.
Mais les simulés, ouais. C'est un grand classique contre l'équipe de France. C'est pas la première équipe qui s'amuse à ça.
Ouais, mais voilà, à un moment donné, aussi, faut le dire, si on veut faire du Super 14 et l'équipe de France arrête de faire du rugby et puis de faire des mêlées.
Parce que c'est le rugby serait dû à la mêlée pour toi.
Bah, je pense que c'est quand même un secteur de jeu important.
Donc c'est pour ça qu'on a peut-être la meilleure mêlée du monde, mais qu'on prend des roustes dès qu'on joue des grosses équipes.
On verra ça à la fin, mais on verra que l'Australie, qui a une mêlée calamiteuse, ne sera pas championne du monde. Elle se fait tordre par tout le monde en mêlée. Sur des phases finales de Coupe du Monde, si t'as pas de mêlée, tu peux pas gagner. Les Anglais, quand ils ont été champions du monde, ils avaient Vickery, ils avaient Thompson, ils avaient Martin Johnson, qui étaient des mecs qui maîtrisaient la mêlée. Et dans, dans l'épreuve de force et dans l'épreuve de ruse. Parce qu'il faut aussi appliquer les deux.
Ils ont bien rusé là-dessus, ouais. Les Anglais.
Bah, à un moment donné, c'est...
Ils ont
c'est...
reculé sur des impacts, ils ont dit oh, on n'était pas prêts, c'est de leur faute.
Voilà, c'est quoi les limites aussi à un moment donné avec, entre une équipe qui refuse le combat? C'est quand même refuser le combat. Et
Les limites, c'est les Anglais qui les fixent, ceux qui ont
bah oui, c'est eux
jeu.
Qui font les règles. Donc voilà, problème, on est d'accord.
Bon, toi, tu vois du mieux, Driscoll, dans ce match, ou ça te laisse pessimiste?
Offensivement, enfin, il y a vraiment rien eu, quoi, à part des temps forts, on n'a même pas su marquer. Enfin, ça a échoué. Enfin, après, il y a eu des pénalités qui n'ont pas été sifflées et des cartons pas mis par l'arbitre. Mais bon, on a eu qu'une seule occasion et les Anglais 5. Donc, c'est vraiment la grosse différence, je trouve, sur le match. Après, défensivement, bah oui, c'était, enfin, pas mauvais, quoi. On a globalement réussi tous les plaquages, enfin 93% de plaquages sur la rencontre, donc pas mauvais, quoi. Mais
et qu'est-ce que vous pensez du petit UG? Il passe la rampe internationale ou il la passe
non.
pas
non. Il, définitivement, pas il tout. La passe pas.
Il,
fait,
par, faire,
il fait partie des joueurs qui ont eu leur chance, je pense, suffisamment.
C'est l'exemple type des joueurs sur lesquels on met une hype, comme ils disent chez les Ricains en basket, c'est on les fait mousser, on les porte sur le devant de la scène, mais voilà, il n'y a pas de fond. Fall, c'était un peu le même cirque il y a un an et demi, quoi.
Ah, il fait un match, il en prend 5 semaines d'arrêt à chaque fois, donc c'est difficile de jouer pour lui. Il est blessé sans arrêt. Sinon, il y a des satisfactions individuelles qui chez nous, enfin en français, pour toi?
Ouais, il y a eu une belle partie de fin des troisième lignes L.
Ah ouais, mais ça c'est dans la famille.
Ça. Donc ouais, du sautoir qui a fait vraiment une grosse partie, Arinardo qui a aussi qui a été comme d'habitude, sur ses touches assez aérien.
Moi, j'ai apprécié le retour en équipe de France de Claire, qui a vraiment apporté...
En tout cas, il a fait peur à Ashton.
Dans sa présence, ouais. Voilà.
Parce qu'Ashton a...
Il a quand même refusé de jouer le 1-1, alors que je pense qu'il, compte tenu des appuis de Claire, sur l'action, il arme la passe, Claire y part, ou il le fixe, et il y va tout seul entre les perches. Bon après voilà, peut-être excès de confiance d'avoir voulu faire une passe et de montrer qu'il était capable de faire autre chose que de marquer tout seul.
Mais ça se termine par une interception et de UG qui revient, on ne sait pas d'où.
Et sinon, donc on a parlé de quelques satisfactions, mais j'ai bien aimé Servat moi.
Servat, et puis la deuxième ligne qui retrouve son niveau, j'ai trouvé qui avait été un peu absent.
Vous n'allez pas être d'accord. Là.
Notamment Nalé. Notamment Nalé que j'ai trouvé... Non, Nalé notamment, principalement.
Pas Pierre qui... Nalé. Hein.
Non, non. Qui revient à son meilleur niveau en équipe de France, parce que sur les deux premiers matchs, ça a été quelque peu poussif, donc je le...
Pierre est un peu juste au niveau international quand même.
Voilà, bah, après associé avec le retour de Miloszewski, parce qu'il y a quand même cette échéance.
Alors,
là
Miloszewski, il est blessé ou il est pas blessé? Ce qu'il joue en club tous les samedis, hein.
Bah, il est pas blessé pour le stade.
Il est pas blessé pour le stade, voilà. Quand je dis que c'est les clubs qui gouvernent dans l'équipe de France, et que les présidents de la Ligue et des clubs décident du bon vouloir de l'équipe de France, on est en plein dedans.
Et Rougerie au centre?
Rougerie, grosse satisfaction. J'en avais parlé la semaine dernière. Déjà, par rapport, ou en plus de ça, on l'a vu sur du jeu au pied quand on a été embêté sur les chandelles. Il a une présence de par son vécu.
Ballon aérien,
de par son vécu de poste d'ailier. Il a une présence et il récupère un nombre de ballons au centre du terrain contre des trois quarts centres qui ont moins l'habitude. Je pense que là, c'est purement stratégique de jouer au centre et non pas sur les ailiers pour qu'il aille récupérer les ballons, et on voit que ça paye.
Et petite question d'un néophyte. Vous trouvez pas que c'est un peu dangereux?
Non, c'est moi normalement la question de néophyte.
C'est pas un peu dangereux d'avoir qu'un seul 10 de métier? Bon là, Trinduc arrive jusqu'à la 68e, 70e, il se pète. Les autres, enfin les Anglais, ils sortent floude pour mettre Wilkinson. Nous
on met un gamin, c'est ça?
On met pas un gamin, mais on met un mec qui voyage du 10, 12, 15.
Un polyvalent.
Ouais, mais la polyvalence à ce niveau-là, voilà, on arrive au bouche-trou plus qu'à un élément décisif.
Bah après, il y a des postes où tu fais des paris parce que de toute façon, tu mets que 2-3 quarts sur la feuille de match. Donc de toute façon, tu es obligé de faire des choix. Hein, et si ça pète ici, ça pètera ailleurs. Et ça va. Après, voilà, ça dépend. Sachant que quand même, pour
revenir. L'ensemble des nations de haut niveau, enfin grandes nations, mettent 9-10 en remplaçant.
Hein. Non.
Non.
Le 10, c'est souvent un polyvalent, justement. Voilà.
C'est un mec 9-10, capable de jouer Michala, centre, un mec comme arrière. Ça.
Les Anglais, c'est ce qu'ils ont fait, hein, 9-10. Hein.
Il s'appelle comment donc celui qui l'a remplacé?
Non, sauf que Wilkinson, il est capable de jouer à tous les postes derrière. Moi, je verrais bien pour la Coupe du Monde, et là, je fais un petit pari, Floude en 10, Wilkinson en 12, à la Mike 4, quand ils ont gagné leur sacre.
Titulaire?
Ouais. En 5-8e, leur premier centre, on l'a pas vu du match. De toute façon, est-ce que tu es capable de me donner le nom du premier centre anglais? Il n'a pas touché un ballon. Il a toujours été sauté. C'est Tyndall qui avait tous les ballons. Et qui ne les jouait pas forcément bien. Je me dis, ou Floude associé à Wilkinson.
Il gonfle un essai sur la gauche, là, un moment. Bah ouais. Il oublie de la donner.
Ah non, mais moi, je verrais bien une association comme ça, quand ils ont été champions du monde. Je leur dis, avec Mike Catt, qui jouait en 5-8e, on appelle ça.
Bon, pour terminer le tour d'horizon.
Non, moi, je reviens sur ta question quand même.
Ouais.
C'est. Pour le coup, c'est une politique à long terme sur la charnière.
Oui.
Clairement, depuis qu'il est arrivé, il a affiché par Trinduc.
Pas de problème.
Et donc, derrière, c'est juste la question, enfin, le questionnement permanent entre concurrence et confiance. C'est-à-dire que tu installes un joueur, tu le protèges, tu l'exposes aussi parce qu'il joue tout le match, mais tu le protèges en lui disant voilà, c'est pas grave, mon gars, on connaît tes qualités, on va aller au bout avec toi, tu vas jouer tes 80 minutes.
Si. Ah non, ce sera bien.
Tu vas te former, tu vas prendre de l'expérience, de la bouteille.
Mais voilà. Je suis pas forcément convaincu que ça, de ça. Hein. Mais il y a des danseuses comme ça qui préfèrent être protégées, et que ce soit dans n'importe quel sport. Moi, je pense que la concurrence, c'est quelque chose de sain. Si t'es pas capable de la supporter, tu fais pas de haut niveau.
Et donc, les déceptions, les postes à changer vite là pour les deux derniers matchs pour vous? Enfin, les joueurs à changer vite pour les deux derniers matchs, essayer d'autres trucs. Picamoles, là, vous le voyez pas lui?
Oui, Picamol à la place de Chabal, clairement, là, au niveau de la troisième ligne centre, c'était vraiment pas. Enfin, Chabal en tant qu'impact player, quand les autres joueurs sont fatigués sur les 20 dernières minutes, oui, mais sinon, sur un match entier, non.
Les joueurs, voilà, on l'a dit, pour moi, il y a Chabal, il y a Huguet déjà. Après.
Et vous verriez qui à la place d'Huguet?
S'il vous plaît, monsieur Aimance, vous n'avez pas le droit de jouer.
Palisson, il y en a des ailiers.
Moi, on le dit
depuis. Aimance, c'est plus titulaire à tous les ans.
On le dit depuis
longtemps. Il n'est pas titulaire quand les autres sont là.
On le dit depuis longtemps.
Là, il joue à l'arrière, il joue mieux que Poitrenaud actuellement.
Enfin, ça veut dire quoi de ne pas être titulaire dans l'équipe qui est leader du championnat? Des fois, ce n'est pas parce qu'il y a justement une telle rotation, un tel effectif que.
Ce qui veut dire que si tu n'es pas le meilleur de ton club, tu n'as pas joué en équipe de France.
Ouais, mais si pour que ce soit un étranger.
Poitrenaud est titulaire.
Ouais.
Et il est en équipe de France. Pourtant, il joue comme une buse.
Et lui, il faut le sortir aussi. C'est
un type qui n'arrive pas à passer le palier. Et il est très fort.
La question la semaine dernière.
Dans un cocon à Toulouse.
Il n'arrive pas à passer le palier.
Non, je parle de
Poitrenaud.
Poitrenaud n'arrive pas à passer le palier. Il est très fort dans ce cocon.
Je suis partisan de l'immense. Et comment ça s'est passé? Parce qu'il y avait la question de Médard jouera pas.
Blessé.
Blessé. Contre l'Italie.
Et Trinduc.
Comment tu dis toi?
Trinquette.
Trinquette, bah voilà, pareil, pour l'instant blessé parce que agression hors champ de jeu, 5 secondes après qu'il ait passé le ballon par le pilier anglais.
Qui s'est fait exclure, bien sûr.
Je crois qu'il avait un pet au ischio ou je sais pas quoi.
Non, c'est pet au genou suite à un plaquage, or qu'il a pu le ballon hors champ vidéo par un anglais, voilà.
Tu y étais toi?
Bah,
c'est toi la taupe.
Voilà, c'est moi la taupe.
Il est mignon. Donc un ailier a changé, une troisième ligne.
Ailier 15, un 8.
En 2, on laisse pareil?
Je pense que en 12.
Non, en deuxième ligne.
Bah, je vois pas qui mettre.
Bah, Milouchuski, vous le rentrez quand là?
Ou pour moi, il est pas rentrable, il dit qu'il est blessé. Mais sauf que
il Toulouse joue
le fait jouer.
Et
non,
le Clermontois, qui était Priver. Apparu très jeune. Non.
Mince. Jacquet.
Il est arrivé en équipe de France, il avait quoi? Il avait 19 ans?
Ouais.
Il y a des jeunes qui sont arrivés à Toulouse, Clermont, qui le mettent sur le banc. Hein.
Le problème, c'est qu'il joue pas avec Clermont.
C'est qui? Marchois qui joue?
Marchois, c'est au stade.
Non. Il y a Cunemore et il y a Priva déjà qui sont devant lui. Et puis il y a Pierre.
La Pendry, tu penses?
Toi, tu vois, c'est au troisième ligne.
La Pendry est troisième ligne.
Non.
Moi, voilà, sur le poste de deuxième ligne, il y a trois mecs avant lui qui sont incontournables. Donc évidemment, il passe en quatrième. Et tu peux pas postuler à l'équipe de France si tu joues pas 60 minutes par match toutes les semaines, quoi. Ou ça me paraît compliqué d'être titulaire en équipe de France quand t'es pas titulaire à ton club et que t'as pas un temps de jeu suffisant.
C'est un discours de rugbyman, parce qu'il y a des sports où il y a beaucoup de joueurs étrangers ou de joueuses étrangères où on se pose pas la question. Tu peux être en équipe de France sans mettre quasiment le pied sur le terrain dans ton club.
Ouais, mais parce que là, t'es les plus gros salaires et c'est toi qui fais rentrer de l'argent pour le merchandising de l'équipe de France. C'est une autre dynamique.
Question Audrey Scoll, toi qui as regardé la boîte carrée, comme dirait Damienski, qu'est-ce que tu as vu de bien sur les autres terrains, sur les autres matchs?
Bah, le match qui m'a le plus plu, c'était Écosse-Irlande. Enfin, on a vu au début une équipe d'Écosse mal menée et une fin de match, par contre, les 30 dernières minutes, c'était assez impressionnant. Il y a eu des changements et ça a rééquilibré le match. Et on a vu l'Écosse qui était menée, c'est de prendre les devants, faire du jeu vraiment pour s'imposer avec l'entrée de Dan Parks qui a haussé le niveau de jeu surtout. Mais c'était vraiment un beau match. Mais victoire de l'Irlande quand même. De 3 points.
Et ça fait quoi le dernier match?
Gal-Italie. Le pays de Galles gagne. Voilà. Avec apparemment une équipe d'Italie qui remonte un petit peu. Voilà, au bout de 3 matchs.
Ça se confirme?
Ouais, toujours. Ils continuent à s'améliorer. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail. Surtout en défense. Ils ont des petits problèmes autour du 10 notamment. Il n'y a pas. Enfin, le 10, c'est un ancien joueur d'Orléans, il me semble, et enfin, qu'il est vraiment.
Ouais, avec un joueur en fédéral lune.
Orciega, ou je sais pas quoi.
Orquera.
Il est pas au niveau face à des joueurs. Enfin, il a.
Bon animateur offensif, mais il a pas la dimension physique du haut niveau. C'est ça.
Allez, et ben on close cette page rugby. On parlera rugby un peu plus tard dans l'émission. On parlera de l'OPE avec Ryan et puis avec quelqu'un d'autre. Allez. On enchaîne en musique, Gonzalo, et puis on retrouve Damienski et Raoul pour la suite.
J'ai mis Boys Don't Cry. Pour les Français.
Eh ben oui, il fallait pas pleurer les garçons. Et ben pendant qu'on parle de garçons, on va aussi parler de films. Il y a un appel sur le chat. Mardi prochain, c'est la journée de la femme. Et ben donc l'auditrice, pas l'auditrice Cole, hein, l'auditrice qui comment dire, qui a envoyé ça, a peut envoyer un mail sur cafedesports@principactif.net et puis éventuellement on sera ravi de l'accueillir au Café des Sports pour parler de sport et de femmes. À chaque fois que Bernardo l'a fait, ça a été bien fait. Et puis sinon bah oui. Comment dire, la musique et la programmation concoctée bien régulièrement par Gonzalo vous plaît, ça nous fait plaisir. Et notamment les auditeurs sont contents qu'on prenne l'antenne de temps à autre pour couper la playlist.
D'accord.
Voilà, c'est un morceau de rap, hein,
J'allais dire que les clins d'œil et les compliments émanant de la famille de Gonzalo ne marchent pas.
On avait dit pas
donc,
la famille.
Ouais, voilà. Donc.
Et effectivement, le tapis sent le sud-ouest, mais il doit pas sentir que le sud-ouest, quand on a l'habitude d'y être allé. Pour les férias, ça sent aussi...
No comment.
Voilà, ça sent tout le reste. Je crois que ça va être le moment que vous attendez tous, auditeurs, auditrices. Il est là juste pour vous, toutes les semaines. Vous l'entendez à la matinale, vous l'entendez...
À la patatinale, surnom, qui est plutôt pas mal. C'est pas moi, c'est de Jamal, pardon.
Ah, la d'accord.
Non, mais nous, on comprend pas Jamal. On l'aime beaucoup, mais on comprend pas toujours ce qu'il dit.
Vous l'avez tous les matins, presque à la matinale, de 8h à 9h, pour le pire reste à venir. Vous l'avez tous les 15 jours pour les excellents matchs de l'EFC 27 à domicile.
Il nous fait rêver.
Et également...
C'est un secret exercice de style, hein, mine de rien. Je pense que je mériterais un peu plus de considération sur ce sujet plutôt que du tac.
Non, mais c'est vrai que
comme le tac, c'est pour se mettre dans l'ambiance locale, si tu veux.
Parce qu'en fait,
comme ils mettent un but tous les trois matchs,
t'as eu quoi, ouais.
Parce que commenter du basket probé, commenter un match de
sans intérêt,
c'est bagatelle, ça.
T'as un but tous les trois matchs.
Oh ouais, c'est pas loin, je crois que c'est
4 actions.
Je crois tout simplement c'est 17 rencontres et 17 buts c'était que la deuxième victoire à domicile, donc imaginez ça fait
plus de buts. Justement
88
on pourrait lui offrir son petit moment de plaisir. Est-ce que là tu pourrais nous simuler un but là?
Non absolument
pas. Un orgasme footballiste. Juste là comme ça.
Non, ce qui
tu
est
l'imagines
bien, d'un autre côté,
tu le commentes.
C'est un froid réalisme à Évreux. Parce qu'il y a 17 buts en 17 matchs, mais il y a 19 tirs au but. C'est quand même pas mal, hein.
Pour moi on m'a dit faut cadrer.
Allez, c'est ton moment. Pour les auditeurs principes actifs, il est presque 13h. Pour ceux qui doivent travailler, même si c'est les vacances pour nombre d'entre vous, d'entre nous.
C'est vrai. Il fait chauffer le bourguignon, c'est ça.
Allez.
J'adore. Allez, quelques résultats, ceux de la nuit, hein, tout simplement. Les Chicago Bulls de Joakim Noah, troisième match retour pour lui, qui s'impose face aux Washington Wizards, avec 19 points, 11 rebonds, 8 sur 10 au shoot. Il était partout, ce Joakim Noah. Phoenix, qui s'impose face aux Nets en prolongation, 104 à 103, avec 13 points, 18 passes décisives et 5 rebonds du nouveau meneur des New Jersey Nets. On parle bien sûr de Deron Williams, qui évoluait auparavant à Utah. Utah qui justement affrontait Boston, les Celtics qui se sont imposés 107 à 102, qui continuent leur tête, leur leadership dans la conférence Est. Et puis les Denver Nuggets qui se sont imposés face aux Atlanta Hawks 100 à 90. Et les Kings pour finir, 105 à 99 face aux Clippers.
Doucement, on a le temps.
Denver, sans Melo.
Sans Carmelo Anthony, bien sûr.
Il est parti, ça y est.
Ah, ça y est,
le mélodrama.
T'as loupé, devine.
New York.
Bien sûr. Avec Chauncey Billups, voilà.
Et d'ailleurs, le Chauncey Billups a tenu à montrer que c'était un grand joueur d'entrée de jeu, parce qu'il tue tous les matchs depuis qu'il est arrivé.
Alors, pour la petite histoire, New York a battu Miami, hein, il y a deux jours quand même. Donc, ce nouveau trio face au trio nouvellement constitué.
Merci pour la session de rattrapage.
Voilà, mais on va parler d'un nouveau transfert plus frais, plus récent, parce que là, la période est terminée, mais il y en a eu un autre au dernier moment. Intéressant. Donc ça c'est un peu pour les résultats de la nuit. Concernant les statistiques collectives, eh bien sachez que donc justement dans la conférence S, c'est Boston, je le disais précédemment, précédemment, qui mène avec 43 victoires pour 15 défaites devant Miami. Hein, au final, bah, cette équipe avec ce nouveau noyau a pris forme et puis du coup son deuxième de la conférence avec juste 2 défaites de plus que Boston. Donc en fait 43 victoires et 17 défaites devant les Chicago Bulls. On est très content. En plus Joakim Noah qui revient, c'est vraiment une solide équipe. Va falloir compter avec eux dans les playoffs. Donc les Chicago Bulls qui sont troisième avec 41 victoires et 17 défaites et Orlando de Dwight Howard entre autres 38 victoires et 22 défaites. De l'autre côté, San Antonio.
Ah, ça casse.
C'est toujours la meilleure équipe de NBA.
49 victoires et 10 défaites.
Exactement. C'est toujours la meilleure équipe de NBA, tout simplement, pour l'instant, avec donc 59 rencontres. On rappelle que c'est 80 matchs de saison régulière, la NBA. La saison de NBA préalable aux playoffs. Donc, qui sont devant Dallas avec 43 victoires, 16 défaites. Les Lakers, 3e, 42 victoires, 19 défaites. Et Oklahoma, la nouvelle petite surprise, l'équipe de Kevin Durant et de Russell Westbrook. Westbrook, pas facile à dire. 36 victoires et 22 défaites. Commentaire sur la NBA ?
Aucun rapport. Tu parlais de Nuggets. Il y en a qui ça donne faim et soif, apparemment, vu qu'il y en a qui mangent de la paella et du rosé pamplemousse.
Du rosé pamplemousse ?
Voilà. C'est pour ça que je qualifie en fait souvent le nom de l'équipe et la ville, puisque c'est toujours rigolo de souligner ou de soulever le nom ou les termes des équipes NBA.
Est-ce que tu vas nous parler des clips?
D'abord les résultats et après quelques infos dans les infos.
D'accord.
Merci. Quelques stats plus individuelles, c'est toujours, et là j'irai pas dans l'ordre, Kevin Durant qui est leader au point avec 28,5 points par match.
Et Kevin Love, il a perdu.
Kevin Love meilleur rebondeur toujours avec 15,5 prises par match et Rajon Rondo toujours meilleur passeur de NBA avec 12,1 passes décisives par match. Là, on attaque les infos. Je t'en prie, les Clippers, tu voulais dire quoi, ami Gonzalo?
Est-ce que tu allais revenir sur le transfert de Baron Davis?
C'était le fameux transfert, non mais très bien, qui a été envoyé un peu à la cave, Baron Davis, pour pas dire aux Cavs, en fait, puisque effectivement, il a été dans le...
elle est belle, mais le malheureux, par contre.
Voilà, l'avant-dernière, dans les dernières heures, vraiment, on clôturait le mercato
Une
NBA.
Heure avant.
Il a été envoyé aux Cavaliers.
Punition.
Ah ouais, grosse punition pour la pire équipe de la NBA. On le rappelle, qui a perdu LeBron James à l'intersaison, qui du coup s'est retrouvé, mais vraiment
la plus grande série de défaites consécutives de
toute l'histoire de la NBA. 29 défaites d'affilée. Du incroyable mais vrai.
Ah, t'as 32 ans, à minuit moins 10, t'apprends que tu vas. En plus, tu quittes Los Angeles.
Ta
Los
ville.
Angeles, ta pour ville. Aller à Cleveland, qui est quand même l'une des villes les plus joyeuses des États-Unis avec Pittsburgh.
Et sa ville, il est natif de.
D'Oakland, je crois.
Ouais, il est du coin, quoi. Il était outré, le pauvre Baron Davis. Donc, Baron Davis, qui est quand même pas le pire meneur de la NBA, mais qui est plutôt un soliste, assez individualiste, ce joueur, qui atterrit donc, au Cleveland Cavaliers. Pas facile pour lui.
Non. Et autre transfert marquant aussi, celui de Boston et Oklahoma.
Oui, alors vas-y, Kendricks
Perkins.
Kendricks Perkins,
le pivot, là. Qui en a chialé, n'ayons pas peur du terme ni du mot, qui en a pleuré, c'est rare à souligner, il l'a évoqué de cette manière-là, et ça a été relevé dans les journaux de la presse locale, il en a pleuré.
Échangé contre Jeff Green.
Bah, joueur de devoir, qui était dans une équipe qui jouait le titre, qui se retrouve...
Gérald Wallace aussi, plutôt intéressant parce que pas loin de 16 points par match, 28 ans, un bon ailier qui est parti des Bobcats qui a signé à Portland.
Ouais, sauf que Batum fait un peu la gueule. Quoi,
parce qu'ils sont 4 ou 5 à son poste. Voilà, ça pas cool pour Nicolas Batum. Alors, vite fait, 2-3 infos quand même. Gros point d'interrogation concernant le NBA Dunk Contest. Alors, bien sûr, c'est un match de gala, c'est bien sûr des artifices de la para que ces concours à tout va en NBA. Mais là, en l'occurrence, une heure avant que se déroule le concours de ce match, sachez que la NBA s'est fendue d'un communiqué particulier qui a été relevé par là aussi la presse locale.
Ah, personne se drogue ?
Qui dit 5 collégiens démontreront leur talent de dunker devant le vainqueur du NBA Slam Dunk Contest, Blake Griffin, le lendemain. Ouais, était prévu.
Déjà annoncé, ouais.
Voilà, donc une heure avant, on annonce Blake Griffin, bon, qui quand même, j'avoue, avait toutes
casquette
les chances de l'emporter.
Déjà floqué, etc.
Ouais, je pense que, je l'avais annoncé, il y avait grand chance que ce soit lui.
Ils nous ont menti en plus, hein.
Porqué.
Ils ont dit que le dunk qui avait valu le titre était une grande première mondiale.
Oui.
Il a dunké par-dessus une bagnole.
Il est revenu dessus, Gonzalo, j'avoue.
Voilà,
Alors, en fait,
Milic, sur le capot, alors Milic, il est passé au-dessus.
Au-dessus, voilà.
Sur la longueur.
Non, en fait, c'était sur le côté, mais au-dessus du capot. J'ai l'information précise.
Au-dessus du toit.
Voilà, l'information précise.
Rendons à Darko ce qui appartient à Darko.
L'information marquante, là, c'est quand même Parker. Là.
Ouais, alors Tipeee touché à un mollet et qui est absent 2 à 4 semaines.
Voilà. Et le meneur remplaçant est lui-même un peu dézingué. Donc, ils vont
c'est dommage parce qu'il est plutôt pas mal.
Ils vont être obligés de faire jouer le numéro 3.
Sinon, il y a aussi Kobe Bryant qui passe 7e au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Il devance Elvin Bayes, voilà, qui était 8e. Il est seulement à 91 points du record de Moses Malone. Donc, c'est pas rien pour Kobe Bryant qui bat tous les records en ce moment, puisqu'on le rappelle, il y a 15 jours, la semaine dernière, pardon, il était pour la première fois 4 fois MVP du All-Star Game. Et puis, je voudrais juste m'attarder sur Joakim Noah. 2 secondes quand même, puisque je vous dis 3 rencontres. Il était au four et au moulin encore hier soir. Il y a 2 jours, ils affrontaient les Chicago Bulls, donc
bleu,
son équipe.
Blanc, rouge, les Milwaukee,
le
français.
Les Milwaukee Bucks. Ah ouais, j'avoue, c'est une info franco-française, américano-NBA. Eh bien, oui. Espérons. Joakim Noah, pour son 2e match du coup, se fend de 8 points, 17 rebonds, 3 contre, 2 passes et 1 interception. Donc il emporte les Bulls pour la petite histoire, 83-75. C'était pas cette nuit, c'était il y a 2 jours. Et là, à noter le très. J'ai envie de relever le compliment de Scott Skiles, qui est le coach en fait de Milwaukee Bucks, qui dit bien. Je n'avais jamais vu une telle énergie auparavant sur un terrain et je n'ai pourtant pas joué avec Wilt Chamberlain. Donc c'est pour dire que Scott Skiles, qui connaît, qui a été un joueur de devoir, hein, on se rappelle, plutôt shooter, un petit blanc en mode coupe de cheveux à l'ancienne, qui a joué à Rolando
un
longtemps.
Un petit blanc.
Oh non, mais quoi d'autre?
Pamplemousse.
Allez-y, allez au bout.
Vas-y, vas-y, je vois pas ce que tu veux dire.
Avec quoi il faut constituer une équipe?
Ah, et puis un rouquin, ouais.
D'accord, ouais, ouais, pas loin. Plutôt la coupe
au carré. Il paraît qu'il
était
vendredi soir, d'ailleurs, chez un.
Eh bien, Scott Skiles se fonde d'un beau compliment et je trouve qu'il est à relever puisqu'il témoigne bien vraiment de l'énergie dépensée et de la qualité de ce joueur que Gonzalo valide lui aussi, si je ne me
trompe pas. D'ailleurs, je suis en train de penser que je vais peut-être proposer à Rémi les services d'un ou deux rouquins. Alors, il n'en a pas dans son équipe.
Avant de clore la page, si tu veux bien, Damienski, moi je voudrais relever le génie français. Donc, on sait bien que, par exemple, Bernard Lapassé n'a pas réussi à développer le rugby en France. Qu'est-ce qu'on fait? On le met à l'International Board pour essayer de développer le rugby dans le monde entier. Et il n'y arrive pas.
Tu vas parler de notre cher FIBA.
Et puis, on a monsieur l'arbitre, là, monsieur l'arbitre Yvan Ménini, qui est quand même le despote incontesté du basket. Je crois qu'il est depuis Général de Gaulle, il est président de la Fédération française. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on le met à la FIBA, hein, pour pareil. Hein, il n'a pas réussi à développer le basket en France. On a
les mêmes. Hein. On a les mêmes dans les autres sports. Hein. Blin, équipe de France de volley, qui est le responsable du directoire des entraîneurs au niveau de la FIVB.
Pareil. Et donc, Yvan Ménini, avec la FIBA, va pondre un tournoi pré-olympique au moment des phases finales de NBA, comme ça, effectivement, comme ça, tout le monde pourrait y venir.
Non.
Bah oui.
Bah, c'est l'ami de Dallas qui va être content. Comment il s'appelle
Comment il s'appelle? Marc Cuban, ouais.
Le Cuban. Non, il y a une déclaration de Parker dans l'équipe, il dit bah, c'est simple, on pourra plus y aller. Quoi.
Bah oui, bien sûr.
Voilà. Au lieu de qualifier, donc lui, Parker évoqué, il disait bon, bah, les 4 premiers du championnat d'Europe vont au JO, puis on n'en parle plus, plutôt que de refaire un tournoi qui est censé rapporter des
money, money, money.
Rapporter de la money à la FIBA.
C'est donc bien nous, dommage parce que justement,
qu'on arrive à exporter, là, tu me c'est coupes, nos génies français.
Voilà, tu me coupes l'herbe sous le pied parce que je voulais revenir un petit peu sur l'état des Français justement et les perspectives pour l'équipe nationale. Eh ben voilà, ah,
c'est dommage
maintenant.
Parce que si on constitue un 10 avec les 10 joueurs NBA, enfin en tout cas avec Batum.
Pas ça.
Non, non, mais en tout cas, si tu mets Batum, tu mets Dio, tu mets Noah, tu mets Tipeee, tu mets Bobois, bah, déjà ça fière allure.
Déjà Bobois, tu peux pas.
Bah Boba,
il est revenu.
Oui, mais son président a déjà dit qu'il jouerait pas la qualité.
Là, on peut mettre Agen Sarr.
On a. Non, c'est. Alors, Séraphin.
Pourquoi t'as pas parlé de Mike?
Alors, Séraphin, oui, il y a Mike Pietrus, mais j'avoue, il est au placard en ce moment.
Il est pas à la cave.
Séraphin, c'est pas terrible, mais il commence à jouer. Il prend du galon, il prend une quinzaine de minutes par match. Et il est en train de faire sa place. Sans avoir de grosses statistiques, mais il commence à faire ça.
Non, mais un bestiau, il en faut. On en a jamais.
De toute façon, il faut Maimi et. Maimi et Séraphin pour faire de la place dans la raquette.
Bien sûr.
Avec on des missions de défensives et du bloc.
Donc oui, c'est dommage parce qu'il y aurait
pas de Petro, mais on a plein de.
Il y aurait moyen d'avoir une belle équipe française. Simplement, moi, très honnêtement, je pense la deuxième meilleure équipe du monde potentiellement avec tous ces joueurs.
Naturaliser Thabo Sefolosha, l'ancien Chalonnais.
Et Serge Ibaka.
Voilà. Et Serge Ibaka parce que voilà, il est à moitié francophone.
Allez. Eh ben, je crois que ça va pour la rubrique NBA.
Ça va.
On va se quitter pour cette première partie en musique et puis on se retrouve après Toujours au Café des Sports, toujours sur Principe Actif.
J'annonce tout de suite, ce sera pas aussi bien que la semaine dernière, hein, le morceau qui suit l'Arbre qui est mis.
Ah, je ne sais pas.
The man, or if it's wrong, we will try.
Et ben vous êtes toujours au Café des Sports sur Principe Actif 102.4 FM ou partout dans le monde principeactif.net. Oubliez pas les podcasts si vous n'entendez pas toute l'émission ou si vous voulez les réécouter. Et puis bah évidemment toujours le chat en direct qui est bien évidemment ouvert. Et ben je crois qu'on va accueillir un nouvel invité.
Bernardo, je sens qu'il va me dire quelque chose. Parle, je t'écoute.
Alors, comme les moyens techniques évoluent toujours sur Principe Actif, on est maintenant capable de faire une chronique par un de nos chroniqueurs habituels, directement depuis les montagnes. 2011 sera l'année du TESE, donc c'est l'année de Bernardo.
Oui, alors, cette fois-ci, je vais vous parler de pas d'une lettre, hein, mais carrément de tout un prénom. Hein, le B de Bernardo comme bousilleur d'oreilles, hein, pour vous rappeler de belles expériences, notamment à nos amis de chatter. Le E comme effeuilleur de palmarès. Et le R, ravageur de tympan, parce que ça, je peux pas m'en empêcher. Le N, parce qu'ils nous ont fait rêver, narrateur de nos rêves. Et puis, toujours ma tendance musicale que vous appréciez tant, agresseur de mélomanes, le A. Voilà. R, raconteur de légendes. Hein, je vis dans le passé.
C'est un peu notre Jean-Paul Olivier, quand même, Bernardo.
Découvreur de pépites improbables. Musicalement encore, hein, vous savez que j'ai beaucoup de culture à ce niveau-là. Et le O, alors le O, ouvrier des chiffres et des lettres, j'ai été élevé à ce rang par Bernard Pivot dernièrement. Voilà, c'était ma petite chronique en direct des Alpes.
Non, c'est pas les Alpes, je crois, ça doit être le...
Quoi, il se finit dans les Pyrénées, lui ?
Non, le Jura.
Il n'y a pas de neige là-bas ?
Non, bah, il y va pour manger, hein, et boire ouais, et du vin jaune, genre, et voilà. Eh bien, Bernardo, si du haut de tes montagnes...
Où que tu sois.
Tu nous entends.
On te salue. Bah,
il est toujours en haut, de toute façon, lui, hein, par rapport à nous.
Ah oui, il n'y a pas de difficulté pour ça.
Ah, c'est super. Donc là, Bernardo sans Bernardo et un Dave...
Allez, on enchaînerait par un Dave sans Dave. Oh, serait-ce possible ? Pas tout de suite.
La technique a ses limites, quand même.
Voilà.
Ou c'est le patron qui est limité.
Non, si t'appuies sur lecture, ça marche.
Hein. Oui, mais c'était pas le bon.
Ah, d'accord.
Allez, ça arrive maintenant. Vous avez pris l'habitude maintenant des interviews fracassantes réalisées par l'ami Dave. Eh ben, en voilà une nouvelle.
Ouvre ! On sait que t'es là !
Faut défoncer au bélier.
Attendez, d'abord on négocie, la violence après.
Aimé, c'est Bertrand Meilleux, le patron de Canal Plus. Je sais que vous êtes dans ce bureau. Sortez, il y a un match à commenter dans 2 heures.
C'est la Ligue des Champions ?
Non, le championnat de France.
Championnat de France ? Plutôt crevé !
Aimé, soyez raisonnable.
Ah, la casquette des 0-0, il en veut plus, Aimé. C'est fini tout ça, je sortirai pas.
Aimé, on va devoir défoncer la porte.
Si vous rentrez, je bute Denis Balbir. Je suis un taré, moi, j'ai plus peur de rien. J'ai combattu à Nice Metz, moi.
Michel, parlez-lui. Essayez de le raisonner.
Aimé, c'est Michel Denisot. Allez, viens commenter, ça va être un bon match, promis.
C'est quoi ton match ?
Strasbourg-Lille. Désolé.
La Ligue 1, c'est en exclusivité sur Canal+. Pour le meilleur et surtout pour le...
Pour le pire.
Et bientôt le CFA2 avec Damienski. 0-0 là aussi, mais des interviews exceptionnelles. D'ailleurs, on attendait celle de Kézak. Hein. Tu nous l'as promis, on l'a pas eu.
Ça permet, on a parlé rapidement de foot, de faire un petit coucou à l'ami Tang.
Aussi, et qui, voilà. Qui porte sa croix voilà. Avec Nancy.
Quand on lui a demandé à la question, ça va avec Nancy, qu'est-ce qu'il nous a répondu ?
Je sais plus.
Pas trop peur pour ce week-end, il recevait Marseille. Oh, ça fait 2 ans qu'on a peur toutes les semaines. Alors,
ouais. Donc, pas trop, voilà. Pas trop joli de se moquer du mec qui commence son calvaire dans la descente de l'avenue churchillienne.
Ah oui, ouais. Oh là là, on a entendu parler de ça. Ça nous fait pas plaisir.
Non, c'est
on
pas
fera
vrai.
Pas de la pub pour eux.
C'est clair.
Voilà. Et ben, bon. Je crois que ça va être le moment tant attendu par tous ces fous d'auditeurs et d'auditrices qui réclame à cri perdu cette rubrique. C'est le moment.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini.
Et bon, oui. Ah bah allons-y. Allons-y. Non, je reviens sur un truc qui est cher à Gonzalo, c'est-à-dire la culture sportive. Pas la culture dans le sport, parce qu'on en est complètement dénué, nous, de notre côté. Mais la culture sportive, il nous fait souvent l'apologie de son pays d'origine, là, notre espingouin de réalisateur, là, enfin d'ingénieur son. Et voilà, la main sur le cœur, etc. Tu peux embrasser le crucifix aussi et porter le maillot du Real pendant que tu y es.
Du Real, non. Pas celui-là.
Oui. On savait. Non, on parlait de culture sportive, on disait que notre pays en faisait cruellement défaut. On disait que certains sportifs, maintenant, entraient dans les instances et essayaient de porter leur sport, ou le sport au sens large, sur les fonds baptismaux de notre État. On avait apprécié les interventions des rugbymen, des handballeurs. Des anciens barjots, etc., lors du championnat du monde. Ben moi, j'ai fait un petit stage en immersion. Je suis parti outre Quiévin, et pas que pour boire du Viandox, contrairement à ce que tu dis. Je suis d'abord allé là-bas pour le sport. Donc, j'ai passé une semaine chez nos amis belges. Et il y a eu un petit clin d'œil intéressant. On a lu nos... Quoi ?
Dans un splendide hôtel.
Non, mais
petit déj compris.
On avait lu les interventions dans la presse.
Vomir dans une cité, ça t'a dû te rappeler des souvenirs, non?
C'était pas une cité U, c'était le Blozo. Alors, Blozo, c'est quoi? C'est tout simplement l'acronyme pour Comité Olympique Belge. Voilà.
Pardon.
Voilà. Bon, bref. Non, mais c'était intéressant de regarder la différence entre l'organisation du sport là-bas et surtout la popularité autour du sport en Belgique et ce qu'on peut connaître chez nous. Alors, on avait lu il n'y a pas très longtemps une brillante interview de notre cher adjoint au sport qui postulait clairement au nom de la ville pour l'élection de la ville la plus sportive. Alors, en 2014, 2015, 2027, on ne sait même plus. Dans la catégorie d'Évreux, c'est-à-dire les villes de moins de 60 000, je pense, pour le classement édité par le journal L'Équipe. Voilà, donc Évreux postule très clairement. Ça se voit, ça se sent, ça transpire par tous les ports des Évreuxiciens. Il n'y a pas de problème. On voit bien qu'on est engagé dans cette voie-là. Évreux brille sur tous les plans au niveau sportif actuellement. Les installations sont remises en conformité, embellies. On en voit de nouvelles apparaître, synthétiques ou pas. Il y a d'énormes projets qui sont mis en route. À côté de ça, moi, je me suis retrouvé dans une ville où il y avait des affiches partout. Alors, je vais pas vous le faire en flamand parce que j'ai pas tout maîtrisé, mais c'était Blamske Stadt 2011, Gand, ville sportive des Flandres 2011. Alors, c'était affiché partout, mais quelque part derrière l'affiche, il se passait quelque chose à chaque fois. C'est-à-dire, vous baladez dans cette ville et vous voyez déjà une partie vraiment importante de la population qui circule à vélo. Donc ça, c'est assez marquant, avec des pistes cyclables partout.
Vous voyez des gens. C'est le plat pays là-bas. Nous, on a une cuvette, c'est pas pareil.
Ouais. Oui, nous, on a le jarret plus alerte, il faut monter les côtes, mais bon, c'est pas très grave. Mais les gens circulent à vélo énormément, des pistes cyclables partout, ça donne tout de suite une atmosphère un petit peu différente. Vous voyez énormément de gens faire du sport santé, du sport loisir, courir pendant leur pause au boulot, etc., se ruer dans les clubs de fitness. Bon, c'est une agglomération un peu plus importante qu'Évreux, hein, c'est 240 000 habitants là-bas. Et puis, vous voyez des gens sur l'eau. Il y a beaucoup de canaux et de petits lacs là-bas aussi, pratiquer le kayak, l'aviron, etc. Une bande d'énergumènes par 4 degrés à 9h30 du soir qui joue au kayak polo au milieu d'un lac, ça étonne. Au milieu des bars d'immeubles.
Des bars quoi ?
Au milieu des bars d'immeubles.
D'accord.
En briques rouges là-bas. D'accord ? Des terrains de volley et des playgrounds de basket. Pas de terrain de foot d'ailleurs, hein. Pas vu. Bon, Gand qui abrite quand même la Gantoise, qui était vainqueur de la Coupe de Belgique il y a 2 ans. Et puis surtout un complexe sportif.
Et tu fais ton Bernardo.
Non, exactement. C'est pour faire plaisir à Damienski. Et puis au milieu de tout ça, un complexe sportif énorme, très proche de l'université. 40 000 étudiants dans cette ville. Ça aide peut-être à être dynamique, mais bon, voilà. Oui. Un complexe sportif avec un vélodrome couvert. Et là, vous vous dites que oui, c'est pas seulement l'autre pays du vélo ou du fromage ou je sais pas quoi. En tout cas, le pays de la bière, ça vous l'aviez compris. C'est aussi le pays du cyclisme. Plus de 100 personnes en train de tourner à chaque heure sur un vélodrome à partir de 4h de l'après-midi, les jeunes, moins jeunes, etc. Quand vous ressortez le dimanche matin, là c'est carrément l'invasion dans les rues, tous nos chers cyclos habillés de leurs plus beaux atours, un marathon qui se courait le week-end où j'étais présent, une compétition d'athlétisme dans la salle attenante, encore une salle couverte d'athlétisme
avec le, là où se fait le meeting de Gand habituellement, qui est un meeting international, mais là c'était une compétition locale. Des canards, puisque tu parlais de As ou de Marca dans, ton, dans ta péninsule ibère, des canards qui consacrent la moitié de leur page au sport. Alors en effet, une grosse part au football, mais une part énorme au cyclisme également. Et voilà, et tout ça, ça fourmille, et on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Construction de nouvelles salles prévues également pour accueillir, bah là en l'occurrence, le volleyball féminin, qui est vice-champion de Belgique et qui joue la Coupe d'Europe. Mais là, pas pour un hypothétique 2015, mais une ouverture de salle prévue l'année prochaine. Voilà, donc on sent réellement une passion pour le sport chez ces gens-là. Je vais donner des chiffres tout simples. Un petit club de volley féminin là-bas, c'est 350. Il faut bien le remplacer un peu. Tu le fais mal, le jingle, c'est affreux. On l'a pas reconnu.
Si toi tu l'as bien reconnu, ça suffit. Ça suffit à t'arrêter.
Donc un petit club de volley féminin, c'est 350 licenciés là-bas en compétition, toutes. Et puis c'est 23 équipes. Et pour chacune de ces équipes, c'est un entraîneur qui n'est pas professionnel, qui est certes indemnisé, mais qui n'est pas professionnel. Un bénévole pour s'occuper de la logistique et de l'organisation autour de l'équipe. Donc vous faites le compte, c'est plus de 50 bénévoles pour un club. On peut regarder ce qui se passe dans nos clubs à Évreux, on est très très loin de ça. Et puis une convivialité autour du sport avec des bars installés dans les salles qui sont ouverts en permanence.
Des bars d'immeubles au milieu des stades.
Cette fois-ci c'était ceux où on a les tireuses, c'était différent. Et où les gens sont présents bien entendu avant le match. Au moins une heure avant le match et reste plus de 3 heures après.
Avec Zaya et compagnie, les tireuses.
Et les suceuses aussi ou pas?
Alors, on a dit qu'on parlait pas de foot. Donc voilà, c'était juste un clin d'œil et pour dire que, ouais, on peut peut-être s'améliorer en France, on peut peut-être se bouger, on peut avoir des beaux projets, mais en tout cas, cette culture-là, elle ne date pas d'hier, elle mettra du temps à être construite. Et moi, franchement, je les envie parce que, comme c'est notre domaine d'activité de prédilection, ça doit être sympa de le vivre là-bas.
Petite question à Damienski, combien de bénévoles à principe actif?
C'est 80 animateurs bénévoles, après on pourrait compter le conseil d'administration et puis 2-3 adhérents, on serait pas loin de 100, je pense, si on faisait le compte.
Bah, on est encore dans le monde associatif, alors que malheureusement, on l'avait déjà dit, le monde du sport a quitté ce modèle-là et il s'appauvrit au fur et à mesure.
On est d'accord. Et ben on enchaîne en musique et puis on se retrouve après pour parler. Il y aura évidemment les coups de cœur, les coups de gueule, mais on parlera aussi vite fait. On parlera rugby avec. On parlera de l'OPE.
Dominguez, trop con, il fouille le passe. À trois temps, Dominguez, il prend le ballon, il se retourne. Merde! On se prend pour qui?
Et ben voilà, on va reparler rugby pendant 5-6 minutes, histoire de faire un éclairage sur l'OPE. On redit bonjour à Audrey Scholl.
Rebonjour.
Et puis on salue Ben Nagui, qui nous a rejoint dans les studios depuis un petit moment.
Bonjour. Salut.
Donc vous, tous les deux, vous avez joué avec l'OPE.
Mais c'est quoi l'OPE?
C'est quoi l'OPE?
Ovalie des Portes de l'Heure.
Et bah plus en détail.
Donc c'est une entente rugbyistique entre trois clubs eurois, donc Vernon, Saint-André et notre belle ville d'Évreux.
Ça nous rassure, on croyait que c'était encore le patron qui avait bafouillé, qui avait inversé les lettres, qui voulait nous parler de PO avec vous.
Alors... Non, c'est bon, assez de dopage, on en parlera suffisamment souvent. Et tous les deux, vous avez joué avec l'OPE, vous jouez encore, vous êtes des fruits de l'OPE. Qu'est-ce que ça vous apporte l'OPE?
Bah, pour ma part, moi déjà j'ai commencé en minime. J'ai découvert le rugby grâce au Village des Sports. Et j'ai rencontré l'entraîneur qui m'a proposé de faire un stage et ça m'a vraiment plu. Donc après ce stage, j'ai été licencié il y a... J'ai pris ma licence.
Ouais,
j'ai pris ma licence il y a 5 ans maintenant. Et ça me plaît. C'est le rugby pour moi, c'est vraiment un univers. C'est pas qu'un sport, c'est tout un univers basé autour du respect.
La chasse et de la pêche.
et des copains.
Ouais.
Audrey Scholl, c'est quoi l'OPE? Parce que toi, tu as joué longtemps à Évreux avant que l'OPE soit créé, notamment en minime cadet.
Ça apporte une ouverture, non?
Mais en fait, ça permet surtout. Donc, nous, avant, on jouait donc en Benjamin, on jouait à un niveau, on va dire, assez local. Et dès minime, on a réussi à former l'équipe de l'OPE. Donc, c'était la première année que ça se faisait. Et on a réussi à hausser notre niveau de jeu en amenant une équipe plus compétitive à un plus haut niveau. Et au fil des années, en plus, on apprend à jouer ensemble avec des joueurs qui sont. On n'a pas de problème d'effectif normalement.
Donc avec une équipe qui est plus quantitative, plus qualitative, ça vous permet de jouer dans des championnats plus élevés. Parce que on sait que le rugby donne des noms de mort à ces championnats, à ces divers championnats. Donc ça vous permet de jouer, je sais pas, c'est Ballandrade ou je sais pas quoi. Fin...
Mais il y a eu une année donc en cadet, donc à la Mercerie, donc c'était le plus haut niveau de France à l'époque de cadet. Il y a eu aussi une année en Krabos, en junior Krabos, qui était le plus haut niveau Krabos.
Ouais, donc ça, c'est les championnats nationaux jeunes, première division.
C'est ça, oui, voilà. Et là, il y a vraiment une intensité de jeu qu'on ne trouve pas dans les autres championnats, bien que maintenant, elle soit retrouvée en Ballandrade, vu qu'il y a eu une refonte, on va dire, du rugby jeune. On a retrouvé un niveau assez haut sur les championnats régionaux, mais... ça permet quand même d'évoluer sur certaines années sur des championnats assez intéressants.
Et c'était donc chouette de voyager et de, je sais pas, donc, ouais. Tu es allé où pour, avec le maillot de l'OPE? Tu as joué contre qui? Où, je sais pas, Amiens, j'en sais rien, Lorient.
Là récemment, dimanche, il y a 2 semaines, on est parti avec l'équipe senior à La Roche-sur-Yon. On a joué aussi contre Arras à domicile, enfin à Vernon.
Là, avec les juniors. Donc là, juste pour compléter, Ben Nagui, il est encore junior et il a déjà intégré le groupe réserve. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des passerelles et que peut-être le niveau junior ou cadet junior, ce que vous vivez, ça vous permet d'être au niveau en équipe senior.
Mais ces passerelles sont réservées aux licenciés hébroïciens.
Oui.
Ceux qui sont de Vernon ou Saint-André, l'autre,
oui, c'est ouais.
Eux ne peuvent pas aspirer sans quitter leur club d'origine à jouer dans la structure senior.
Tout à fait. Donc c'est un peu la limite pour l'instant du système. On ne peut pas intégrer les joueurs de Vernon et de Saint-André à l'EAC Rugby. Donc il faut être patient. Après, c'est aussi une question qu'eux doivent se poser. Il y en a qui le font des juniors qui mutent vers Évreux, qui deviennent des vrais adhérents du club d'Évreux, pour pouvoir jouer dès leurs 18 ans en senior. Mais c'est un choix qu'ils font parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas quitter la région pour leurs études. Parce qu'après, il y a des joueurs qui ont des qualités rugbystiques. Et s'ils mutaient de Vernon à Évreux, les indemnités de formation seraient perdues par la suite pour les clubs. On pense à Benjamin Verlet qui est parti jouer à Colomiers Il aurait peut-être pu jouer 3 ou 4 matchs en senior, mais perdre ses 8 ans de formation pour Vernon, c'était embêtant parce qu'il perdait les 3000 euros de financement.
De toute façon, c'est la fissure dans ce système-là, je suppose. C'est-à-dire que c'est très valorisant pour les éducateurs des différents clubs et pour les jeunes issus des différents clubs d'évoluer en Ballandrade ou en Réchelle, ou etc. Mais à terme, il y a un côté aspirateur pour Évreux. Les clubs vont être déshabillés, non ?
Il y a pas, en fait, il y a pas ce souci. Il n'est pas posé comme ça dans la mesure où ni Vernon ni Saint-André ont une équipe senior. Ils ont pas du tout. Ils ont que des équipes loisirs en senior.
Ah oui, d'accord.
Donc ceux qui veulent faire de la compétition signent à Évreux. Ceux qui veulent faire du rugby à Pépé-Mémé, eh ben ils signent dans les sections loisirs et puis il y a pas de souci. C'est pour ça que c'est viable également.
D'accord. Petite question donc, une remarque. L'OPE cadet l'année dernière a été championne du Grand Est parce qu'on sait tous qu'ici on n'est pas loin de la frontière allemande et vous avez été champion du Grand Est, c'est ça ?
Oui, exactement. Bah le Grand Est. Après c'était un choix à ce moment-là par rapport au niveau. Le niveau était plus intéressant en Grand Est et surtout avec un coût moindre, surtout sur les premières parties de saison, vu que le Grand Est c'est Paris. On a joué Mantes, on a joué Courbevoie, c'est à une heure. S'il faut aller jouer Caen, Cherbourg, c'est déjà plus loin et t'es pas sûr qu'il soit au complet tous les dimanches. Donc, et sportivement et financièrement, c'était plus intéressant de jouer sur le secteur nord-est, ce qui est encore le cas pour les juniors Ballandrade cette année.
Et sur les Ballandrade ou sur les Réchelle, où j'ai pas retenu le nom de la compétition en cadet.
Krabos. À la Mercerie.
À la Mercerie. C'est uniquement des phases, entre guillemets, locales. De la même façon, c'est-à-dire ça se réduit à un quart du territoire français ou est-ce que vous pouvez être amené à jouer des équipes du sud de la Loire ?
Pas dans un premier temps, c'est d'abord des phases de brassage local et puis les meilleurs après se rencontrent pour les phases finales et là tu vas aller jouer effectivement les clubs du sud, sud-ouest, de l'ensemble de la France.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le vrai rugby alors, vous les gars, grâce à l'OPE, c'est-à-dire de jouer contre des équipes du sud de la Loire ?
Une fois oui mais on n'avait pas réussi à passer les phases de on avait perdu en 32e de finale contre Massy, je m'en souviens, en cadet. Par contre après avec la compétitivité qu'on avait à l'époque, on a réussi à se qualifier pour les championnats de France à 7 où on était tombé, donc il y avait
Bourgoin, ouais, l'US Catalane,
Bayonne, Narbonne, des équipes Grenoble, enfin des équipes qui ont en plus un bagage rugbystique assez important par rapport à Évreux. Et c'était vraiment intéressant.
S'il faut parler de succès d'années de sport, hein, de rugby à 7 et tout, on va parler de beach volley aussi quand on y est.
Et vous aviez mangé ou ça ou...
Et on avait fini 14e sur les 30.
Donc sur 35.
Bonne opération.
C'est la moyenne.
Ouais. C'était un bon résultat. Avec une belle génération qui commence à arriver en équipe senior maintenant, justement.
Tu veux dire pour ceux qui n'ont pas choisi le canapé le dimanche après-midi?
Voilà, pour ceux qui n'ont pas choisi ça, pour ceux qui ont choisi de rester pas trop loin pour leurs études, et puis ceux qui ont choisi aussi surtout de parfois oublier les nanas et la mobilette ou la voiture et les sorties.
Et ton ambition, Benagui, sur la suite, ce serait quoi ?
Bah, pour moi, ce serait de continuer en junior, enfin finir cette année. Et puis après, vu que je passe en senior, essayer de rester dans la région pour continuer avec l'équipe senior. Et voilà, si je peux aller plus loin, pourquoi pas.
À quel poste tu évolues ?
Dans l'équipe junior, je suis troisième ligne centre. Je suis polyvalent en fait dans la mêlée. Mon entraîneur me fait jouer troisième ligne centre pour l'instant. D'ailleurs, je lui passe le bonjour à Robin. Et dans l'équipe senior en réserve, ils m'ont fait jouer pilier. Même si j'ai pas forcément la carrure, ils m'ont fait confiance et puis.
Après, il est rentré dans la confrérie
des premières lignes.
Des premières lignes.
Non, mais après, voilà, en plus, sur du jeu à 12, c'est vrai que la mobilité et le bagage technique d'un 8 peut apporter aussi sur le poste de première ligne à ce niveau-là. Quand pour jouer à gauche, ça suffit. Et Audrey Scholl, toi, tes objectifs de fin de saison, à part réparer une épaule ?
Bah, surtout ça, et voilà. Et puis, essayer de faire le maximum de matchs. Possible avant un hypothétique départ à l'étranger, ça serait vraiment bien.
Oh, il signe à l'étranger ?
Ouais, c'est ça, ouais. J'ai trouvé un club.
C'est quoi ? C'est Grenade ou Tallinn ?
Ouais. Non, mais ça serait vraiment. J'essaie de prendre du plaisir avec les copains sur le terrain avant de partir, enfin, si c'est le cas. Et oui, essayer de réparer cette épaule qui m'handicape.
Allez, et ben, je crois qu'on va finir sur cette page OPE, voilà. Et puis, ben, peut-être un morceau rapidement. Qu'est-ce que tu nous as programmé ? Allez, feu, c'est parti. Comme disait Raoul, une petite vieillerie.
Oui, Richard L., Blank Generation.
Allez, rapidement, petit tour de table, un petit coup de gueule, un petit coup de cœur, si vous avez, c'est le moment.
Moi, j'ai une grande interrogation. On va reparler rugby avec ce qui se passe à Bayonne. Ah. Monsieur Salah Gauthier n'avait plus confiance dans Bernard Laporte. Bernard Laporte est parti. Aussi, effet domino, monsieur le lunetier à Flelou a dit « moi, je m'en vais ». Sauf que lui, il s'en va avec 4 millions d'euros.
C'est-à-dire qu'il
donnait 4 patates de sa poche, plus les copains qui venaient en mettre pour lui faire plaisir. Donc ça va faire un manque à gagner autour de 10 millions d'euros. Le maire dit « c'est quoi ce bazar ? Si c'est ça, moi, je diminue les subventions et le nouveau stade, on verra ça plus tard ». Et du coup, là, il y a le conseil d'administration qui veut se réunir en disant « mais nous, on n'est pas d'accord avec la décision prise par Salah Gauthier ». Donc, c'est franchement le bazar.
Ça fait lutte d'influence pour garder le pouvoir.
Oui, c'est ça.
Alors, un peu d'accord sur ce constat, sur ce triste constat. Des coups de cœur, des coups de gueule sur l'actualité, messieurs ?
Moi, oui, un petit coup de cœur pour, on va encore rugby, désolé, hein, mais pour Ronan O'Gara qui a sorti vraiment un gros match dimanche. J'ai vu ça dans mon canapé.
On l'avait déjà vu lors de la journée précédente. Hein.
Et qui, malgré ses 33 ans, a sorti une très très grosse performance et a relégué la concurrence très loin derrière.
Sexton.
Jonathan Sexton a pris une leçon de rugby, je crois.
Et ben, moi, j'ai pas de. Si, un petit coup de cœur. C'est par rapport à ce qui se passe jeudi, à la Halle des Expos. C'est l'opération T'es cap, t'es pas cap. Ça concerne le handicap et le sport handicapé. Tu veux rebondir, Ben Nagui ?
J'y serai jeudi.
Ah bon, on y va alors.
L'association Encre. Et j'espère que vous serez nombreux. Simplement, c'est rendez-vous jeudi 3 mars à la Salle des Expos Évreux devant Cora.
Vous faites quoi, vous, avec l'association Encre?
On a, il me semble qu'on a un petit
une expo photo sur les handi plongeurs.
Ah bah, c'est ça.
Avec Jean-Michel, Julien, ex rugbyman.
Encre, handi plongeur, il n'y a pas
un... un paradoxe. Voilà. Ça sera l'occasion, ou plus sérieusement...
On va pas leur souhaiter malheur non plus.
Plus sérieusement, ce sera l'occasion de pratiquer des activités en fauteuil, notamment. Je pense au tennis, au tir à l'arc, au tennis de table, au foot, au basket, etc., etc. Mais aussi de rencontrer des sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau. Il y aura le capitaine de l'équipe de France.
Les mauvaises langues diraient qu'il faudrait inviter les joueurs de la LM Basket pour peut-être apprendre certaines techniques rudimentaires de shoot. Du fait du capitaine de l'équipe de France, Andy Sport. De basket.
Je vois pas le rapport, mais bon. Parce que
c'est
quand,
du désamour.
Quand
c'est
on a joué,
c'est du dépit amoureux.
Parce que quand on a eu Tonton Simon comme coach, il nous a quand même suffisamment saoulé longtemps avec l'utilisation de nos jambes. Et je pense que, bah, malheureusement pour eux, ils n'en ont.
Alors le rebond, alors.
Voilà, pour le rebond. Pour se placer voilà, dans la raquette.
Non, en un sens plus large, je pense qu'on peut juste rebondir sur ce qu'a dit Damianski en disant c'est cher, sportif professionnel ou sportive professionnelle pourrait s'inspirer bien souvent de gens qui pratiquent à niveau inférieur ou avec un handicap pour revenir aux vraies valeurs du sport.
Voilà, par contre, voilà. Je pense que c'est plus dans l'état d'esprit.
C'est ce qu'il voulait dire et je suis d'accord avec Damianski. C'est exactement ce qu'il voulait dire et vraiment Damianski, c'était chouette.
Au-delà d'être manchot, ayez du cerveau. Je crois que c'est à peu près tout. Il y aura du basket.
Moi, si vous vouliez me demander un coup de cœur, j'en avais un petit. Il était, il était footballistique. Le gros volume de jeu est actuellement de jeunes joueurs, 20 ans. Il s'appelle André Ayou et son petit frère, il pousse derrière. Voilà, c'est un jeune joueur qui fera très certainement partie du Gotha mondial dans quelques années. Peut-être le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille face à Manchester il y a quelques jours. Et là, contre Nancy, incroyable de défense, d'offensive et de. Enfin, voilà, de volume. Tiens,
coup de gueule, t'as raison, coup de gueule football. Pour la municipalité de Lille ou à côté, je ne sais plus où il joue, Lille.
La pelouse de Villeneuve-d'Ascq.
Avec une pelouse, un champ de patates. Sauf que quand tu as les meilleurs joueurs, enfin dribbleurs comme Hazard, et qui ont besoin de jeux courts, c'est un carnage.
Et du coup, bah, double coup de gueule, parce qu'ils ont, abandonné la Coupe d'Europe en pseudo-évoquant le fait qu'ils faisaient tourner effectif, alors qu'en fait, ils n'avaient pas envie de la jouer pour se concentrer sur la Ligue 1. Je trouve ça moyen. Voilà, donc coup de gueule contre Lille aussi.
Et bah, les dernières infos, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de gueule.
Un petit coup de cœur en retard, peut-être que vous l'aviez évoqué la semaine dernière.
Sûrement.
Il y a eu les championnats de France d'athlétisme indoor la semaine dernière avec deux énormes performances. La première, Teddy Tarmugo qui bat son propre record du monde de triple saut indoor.
Tout à fait.
Mais surtout, une nouvelle victoire pour Renaud Lavillenie qui doit faire son septième concours de l'hiver à plus de
5,85. Voilà, c'est ça.
Voilà,
c'est la régularité dans la performance.
Je pense que
ça joue ce week-end, sinon
c'est le,
vite avant que ça finisse.
Allez, vite. Et bah, éventuellement, pour ceux qui veulent, il y a du volley samedi soir. Ça reçoit
Venelle à 18h30 au Gymnase du Canada.
Et voilà, il doit y avoir du basket.
Ouais, ça reçoit le dernier de la classe, Charleville-Mézières. C'est vendredi soir. À la salle Omnisport. Et puis bah, dimanche, c'est l'équipe B de la LM Évreux qui reçoit, c'est le choc des leaders. Ils sont co-leaders avec César Levillain. C'est dimanche 15h30 à la salle Omnisport. C'est le match à ne pas louper en excellence régionale locale. Voilà.
Et ben voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, Raoul.
Au revoir.
Au revoir, Audrey Scholl.
Au revoir.
Au revoir, Ben Nagy.
Salut.
Au revoir, Gonzalo.
Ciao.
Puis bah, j'ai deux nouvelles. Au revoir, Damienski.
Au revoir, ouais,
puisqu'on te le demande
mais
pas,
mais
quand même.
Mais je te vois plus, t'es hors champ. Bah, j'ai deux nouvelles.
C'est
une
ton
bonne,
esprit étriqué qui t'empêche.
Deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. La bonne, il pleut pas dehors.
Mais il caille. Hein.
Mais par contre, il y a du vent, il caille. Et la mauvaise, par contre, c'est qu'on ferme. À la semaine prochaine.
Essai de Christophe Dominici, c'est un génie!
Essai! Pas vrai de pas vrai! Deux fois ça, c'est pas vrai!
Chut! Les massues, il ne faut pas s'y fier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune.
Et but!
Et troisième but!
But d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute!
Chute de Mélenchon, juste devant Armstrong. Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Sheppard est parti. L'Express, le TGV est parti. Sheppard, 958, record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France. Alors, il se défonce car la ligne est encore loin.